L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Alors cette semaine, je vais vous parler de trois sujets différents dans la même chronique, mais trois sujets qui ont quand même un lien entre eux, je vous rassure. Tout d'abord, il sera question d'un récit mythique, qui est quasi mystique, presque. Vous verrez que ce récit mythique... a contribué à créer l'une des plus grandes quêtes chimériques de l'histoire qui a coûté la vie à nombre d'aventuriers et nombre de populations indigènes. Après ce rapide détour par un récit mythique, je vous parlerai d'une théorie économique, ou en tout cas d'une observation qui a été faite par des économistes sur la gestion et l'utilisation des ressources naturelles. Et enfin, en troisième lieu, je vous parlerai d'un pays d'Afrique, la République démocratique du Congo, qui synthétise d'une certaine façon les deux premières observations précédentes, et notamment la gestion des ressources naturelles, qui n'est pas forcément un vecteur de richesse et de développement. Vous l'aurez compris, la thématique de cette chronique sera véritablement d'apprécier la place que peuvent avoir des ressources naturelles, minérales, pétrolières, gazières, etc. Sur la trajectoire et l'avenir d'un pays, en fait. Et nous allons voir que le fait de détenir des ressources en quantité n'est pas forcément un vecteur de prospérité. Ces pays qui auraient pu être des Eldorado, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, le mythe de l'Eldorado. Alors, qu'est-ce que l'Eldorado ? Alors, l'Eldorado, c'est d'abord un récit mythique d'un lieu dont on ne connaît pas la localisation exacte, mais qui aurait pu se situer en Amazonie, et où tous les bâtiments seraient recouverts d'or. Alors pour celles et ceux qui ont pu regarder la télévision dans les années 1980-1990, vous avez peut-être vu les mystérieuses Cités d'or, avec Esteban Ezia, qui reprend de manière un peu romancée la quête de l'Eldorado. Alors cet Eldorado, au départ, c'est le récit d'une cérémonie de l'homme doré, qui était le récit d'une tribu indigène qui était localisée dans l'actuelle Colombie. Les explorateurs européens, à partir des années 1500, ont découvert de fabuleuses quantités d'or dans le nord du continent sud-américain et pensaient qu'ils en trouveraient à l'intérieur des terres, puisque les premières richesses étaient localisées sur les côtes, ce qui était assez logique, hein, les explorateurs étaient des navigateurs, donc ils arrivaient d'abord sur les côtes, découvraient des richesses, et ensuite penser qu'en avançant un peu plus à l'intérieur du continent sud-américain, et notamment au cœur de la forêt amazonienne, penser qu'il pourrait trouver encore d'autres richesses. Alors, en 1545, des centaines de pièces d'or ont été trouvées dans l'actuelle Colombie, dans le lac Guatavita. Et cela a donné à penser aux explorateurs qu'ils allaient pouvoir en trouver encore plus. Alors, vous avez un explorateur, Sir Walter Raleigh, qui s'est rendu en Guyane à la recherche de l'Eldorado, car il pensait qu'il pourrait en trouver éventuellement le long du fleuve Maroni. Bon, ses recherches ont été quelque peu décevantes et il n'a pas véritablement trouvé de trésor. Alors, un point important à souligner, c'est que la recherche de l'Eldorado a été un vecteur de colonisation des territoires américains. Par exemple, les colons espagnols se sont installés à Hispaniola, qui est l'actuel Haïti. Et vous avez une période au 16e, 17e et même en partie au 18e siècle, où il y a eu une véritable ruée vers l'or en Amérique centrale. Le poète Edgar Allan Poe a écrit un poème, Eldorado, qui, je cite, « Par-delà les montagnes de la lune et au fond de la vallée de l'ombre, chevauche hardiment, répondit l'ombre, si tu cherches l'Eldorado. » Alors cette quête de l'Eldorado, je disais au départ que c'était une quête chimérique, c'est une quête qui a eu des conséquences humaines tragiques. Des milliers de conquistadors ont perdu la vie au cours des expéditions, mais également de nombreuses populations indigènes, puisque les porteurs de ces explorateurs étaient souvent des locaux. La quête de l'Eldorado a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, et au final, vous voyez, ça a été le vecteur d'une grande aventure humaine, mais également d'une terrible tragédie humaine. Alors, après vous avoir parlé du récit mythique et de la quête effrénée de l'Eldorado, je vais vous parler maintenant d'un phénomène économique. Alors, ce phénomène économique, il s'appelle la Dutch disease ou la maladie hollandaise, ou encore, c'est ce que l'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Alors, c'est un phénomène qui a été décrit par les économistes à partir des années 1960-1970. Il s'agit de l'exploitation intensive des ressources naturelles qui provoque un déclin de l'industrie manufacturière locale. Puisque, à un moment donné, vous allez avoir un accroissement des recettes d'exportation qui vont entraîner une appréciation de la devise nationale. Mais ce phénomène va avoir un impact sur les autres secteurs d'activité qui vont moins se développer. Et le problème, puisque vous avez d'autres secteurs d'activité, notamment au niveau de l'industrie manufacturière qui va moins se développer que l'exportation des ressources naturelles, ça va créer un déséquilibre au niveau de l'appareil économique national. Alors, l'origine de la maladie hollandaise, comme son nom l'indique, elle prend ses racines aux Pays-Bas dans les années 1960. Puisque dans les années 60, les revenus des Pays-Bas vont augmenter fortement suite à la découverte de gisements gaziers à Groningue et en mer du Nord. Donc finalement, ces gisements gaziers vont entraîner de nombreuses exportations, enrichir les Pays-Bas, mais lorsque les revenus qui sont liés à la rente gazière ont diminué, les autres secteurs industriels qui ont été moins développés pendant cette période de boom gazier n'ont pas pu prendre le relais. Et donc, ce modèle d'analyse économique, il a été appliqué prioritairement aux pays pétroliers ou gaziers. Donc, c'est le cas des Pays-Bas pour les années 60, ça a été l'Algérie pour le pétrole dans les années 1970, et c'est le cas, et ce sont des analyses qui sont toujours valables aujourd'hui, pour des pays comme le Venezuela ou le Nigeria, qui dépendent fortement de leur rente pétrolière et qui voient leur économie, leur développement entravé par une mauvaise utilisation des ressources naturelles et surtout une mauvaise utilisation de l'argent généré par les exportations de pétrole. Et c'est vrai que cette Dutch disease, on l'élargit aujourd'hui aux pays qui sont riches en matières premières, notamment ça peut être des métaux, puisqu'en fait la spécialisation dans les matières premières va se faire au détriment des autres secteurs manufacturiers. Et pour illustrer ce propos, je voulais vous parler de la République démocratique du Congo. Alors c'est un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés et une population de 90 millions d'habitants. Un pays d'Afrique centrale qui est connu à la fois pour son grand potentiel hydroélectrique, mais également pour ses forêts, puisque sa superficie de forêt représente 60% du territoire. La République démocratique du Congo comporte de nombreuses ressources minérales qui sont présentes dans son sous-sol, le cuivre, le cobalt, puisque la RDC est le premier producteur mondial de cobalt, le coltan, mais également de l'or et des diamants. Et au sujet du coltan, il est important de souligner que le coltan se situe dans la province du Kivu, qui est aujourd'hui une forte zone de tension et une zone où il y a actuellement une guerre civile. Et en tout cas, cette situation de conflit au sein du Kivu est en partie provoquée par la présence de ressources naturelles. En partie, je dis bien. Alors, au niveau économique, 90% des exportations de la RDC sont des matières premières et du pétrole. Donc vous voyez que c'est un pays qui est quand même largement tourné vers les exportations, mais sur un seul, voire deux secteurs d'activité, ce qui représente un vecteur de fragilité. De plus, 40% de ces exportations partent en direction de la Chine. Donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui, d'une certaine façon, deux risques pour l'économie de la RDC. Les cycles propres aux matières premières, puisque vous savez que toutes les matières premières, a fortiori le pétrole, connaissent de fortes variations cycliques provoquées par les fluctuations du prix du baril, très souvent pour des considérations économiques, géopolitiques, voire parfois des catastrophes naturelles qui peuvent faire fluctuer le prix du baril. Le deuxième risque, c'est les fluctuations de la conjoncture économique chinoise. Dans l'absolu, on pourrait considérer qu'avoir beaucoup de matières premières et comme client principal la première économie mondiale, c'est un vecteur de stabilité et de richesse. Malheureusement, pour un pays comme la RDC, ce n'est pas le cas, puisque c'est un pays qui connaît un très mauvais niveau de développement au niveau des infrastructures, de l'accès à la santé, des structures éducatives qui restent très fragiles. Alors cela est lié en partie à la mauvaise utilisation de la rente et des ressources liées à l'exploitation des matières premières. Alors cette mauvaise utilisation, elle est liée en grande partie au détournement de l'argent, de la rente des matières premières par, on va dire, la classe dirigeante. Bon, c'est un phénomène qui est connu depuis longtemps. Et dans nombre de pays touchés par la maladie hollandaise, généralement, c'est la classe dirigeante, sont les élites qui confisquent une partie de la rente et qui crée finalement ce déséquilibre au niveau du modèle de développement. Récemment, la RDC a changé son code minier pour le rendre plus favorable à des opérateurs nationaux et non à des opérateurs extérieurs. Puisque vous avez à peu près trois grands opérateurs au niveau de l'exploitation des ressources naturelles en RDC, et dans le lot, vous avez notamment un opérateur suisse et un opérateur chinois. Alors le fait de rendre encore plus captif son marché, ce n'est pas forcément une bonne chose. On pourrait penser intrinsèquement que favoriser l'économie locale serait meilleur pour l'économie du pays. Or, la RDC ne dispose pas, on va dire, d'opérateurs suffisamment compétents et puissants pour pouvoir exploiter de manière efficiente l'ensemble de ses ressources. Donc la réforme du code minier, sur le papier ça peut peut-être paraître une bonne idée, malheureusement ce n'est pas ça qui va permettre d'augmenter les richesses, et en tout cas de maximiser l'efficacité des revenus qui seront tirés de l'exploitation des ressources naturelles. Et dans le fond, c'est dommage, puisque la République démocratique du Congo détient aujourd'hui 50% des réserves mondiales de cobalt. Or, le cobalt est utilisé pour les batteries des véhicules électriques. On sait aujourd'hui que les véhicules électriques vont quand même connaître un très fort accroissement dans les années à venir. Donc il va y avoir une forte demande, enfin en tout cas une forte tension sur la demande en cobalt. Et si les mécanismes économiques ne sont pas assainis en RDC, certes, le cobalt va être de plus en plus exploité, mais malheureusement, les habitants de RDC ne risquent de ne pas en voir la couleur, ou en tout cas n'en verront qu'une infime partie. Donc vous voyez, avec le cas de la RDC, on a vraiment affaire à ce phénomène de Dutch disease, d'une ressource potentielle qui pourrait créer de la richesse, mais malheureusement une richesse qui ne ruisselle pas sur le territoire. Ainsi s'achève cette chronique dédiée à l'Eldorado au départ, au phénomène de la maladie hollandaise et à l'illustration de cette maladie hollandaise sur le continent africain. J'aurais pu prendre un autre pays, bien sûr, mais celui-là me paraissait intéressant pour illustrer mon propos. Simplement, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est cette décorrélation qui peut exister entre le fait de détenir des ressources naturelles et le manque de développement d'un pays. Ça paraît toujours ubuesque. Mais quand vous prenez des pays comme le Venezuela ou le Nigeria, qui pourraient être des pays richissimes et qui aujourd'hui sont des pays gangrénés par la pauvreté, la violence, la corruption, le manque de démocratie, vous voyez très bien que finalement, ces ressources naturelles ne sont pas forcément des vecteurs de développement, de stabilité et de paix. Ce sont des phénomènes très intéressants à observer, mais inquiétants aussi, puisque finalement, ils apportent beaucoup de déstabilisation. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.